Les juifs français doivent sauver la France du salut d'Israël. Mais, enfin, ils aiment la France, mais ils n'aiment pas les Français. Les juifs en France, même pas par ça. Ils aiment la France plus qu'Israël. Mais les goïms, du coin, ils les détestent. Et ne croyez pas que les goïms s'en aperçoivent pas. Il n'y a pas plus anti-français qu'un juif français, je ne sais pas si vous savez ça. Mais la France, ils l'aiment. Même Vichy, c'est très beau, pareil. Et alors, Vaimasu et Thérèse Hamda. Alors ça me rappelle, j'avais un tas d'associations, d'idées qui me viennent ensemble. Un jour, il y a très longtemps, je faisais un exposé sioniste dans une banlieue de Paris. C'était dans une synagogue, c'était Langueur. Ça me dit quelque chose de formidable, c'est Langueur. Et quand j'ai fini, il y a un brave juif Langueur qui se lève. Originaire, je ne sais pas de quel fin fond du Maroc ou de Tunisie, peu importe, mais c'est les juifs d'Anguien. Ça me dit, monsieur Rabin, est-ce qu'il y a le tiercé chez vous? Mais en France, il y a le tiercé. Donc, il faut dire, c'est très, très, très ambigu tout. Alors, je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de tiercé, alors restez ici, je vous en prie. Bon, eh bien, de quoi je parlais? Oui, Achou Bachavanou, Nicolas Amin, c'est Khagiga, tout là. Et, encore une fois, l'illustration de cela, c'est le rassemblement des exilés. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Prenez le melting pot américain. Alors, c'est quelque chose qui ressemble. Les Américains sont de toutes les origines, mais ils ont gardé leur origine distincte. Dans l'identité américaine. Tandis que chez les juifs, c'est l'inverse qui s'est produit. On ramène avec soi l'identité d'égoïme dans l'identité juive. C'est très différent. Eh bien, je cite cette remarque. Alors donc, j'ai fini de citer M. Gordin, il disait être élu, c'est être universel. C'est tout le contraire ce qu'on peut croire. C'est pas que un parmi les peuples a été élu arbitrairement. Qu'est-ce que cette élection d'Israël? C'est l'élection de l'universel humain dans une société qui se constitue difficultueusement, ça n'existe pas à ce moment-là, depuis le premier homme jusque dans la sortie d'Égypte. Et la Torah nous a raconté cette histoire, comment l'humanité a distillé Israël tout en étant marâtre de l'enfant qu'elle a enfanté. Israël sort de l'humanité, mais comme un enfant sort d'une mère indigne, qui devient marâtre, et qui veut empêcher cet enfant d'exister. Il n'y a qu'à lire tout ce qui se passe autour de Jérusalem. Et effectivement, l'histoire montre que cette haine d'Égoïm accompagne la naissance d'Israël à chaque fin d'exil. Alors bien sûr, il y a énormément d'individus qui sont amis d'Israël. Nous sommes peut-être le petit peuple au monde qui a le plus d'amis à l'échelle individuelle. Mais tous ces individus amis d'Israël ont le même défaut. Ils sont impuissants. La puissance appartient aux États, aux hiérarchies politiques, aux hiérarchies religieuses. Elle n'appartient pas aux amis d'Israël. La preuve, c'est que dès qu'il y a une puissance politique qui est amie d'Israël, le gouvernement israélien est contre. Vous avez remarqué ça? Ça, c'est l'humour du juif. Alors, on dit pas pour revenir à ce sujet. C'est une phrase de mon maître Jacob Gordin qui dit « Être élu, c'est être universel. » Et ça coûte cher. Oui, très paradoxalement, c'est l'exil qui prouve qu'Israël est universel. Un juif est d'origine hébraïque, et c'est parce qu'il est d'origine hébraïque qu'il peut être n'importe quel goy. Il peut être français, il peut être allemand. Et quand il est allemand, il est ou prussien ou bavarois. Et quand il est français, il est ou auvergnat ou alsacien. Il y en a des bretons. Et de nos jours, il y a des corses. Je ne sais pas qu'il y a des juifs corses. Je raconte une histoire. J'ai fait la guerre, enfin une partie de la guerre en Corse, enfin le débarquement Je ne sais pas comment encore, c'est le dernier de Holdania, toute cette histoire-là. Et alors, j'avais une permission à Ajaccio, et je vois dans une ville d'Ajaccio un marchand de tissus, Léon Askenazi. Je rentre, je m'assois. C'était des juifs turcs. Alors imagine à quel point ils étaient corses. On n'a plus idée, en deux générations. C'est là d'ailleurs que j'ai acheté le tissu pour faire le premier peignoir de ma fiancée que je ne connaissais pas encore. Je l'ai mis dans ma panda et j'ai dit si je reviens de la guerre, c'est pour elle. Parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas de tissu. Mais imaginez cette découverte. Un vrai juif corse. Qu'est-ce qu'il était turc, c'est pas grave. Mais un patriotisme de second degré. Alors on parlait des autres Corses comme des ersatz de Corse. Non, c'est Corse, les pauvres, hein, c'est pas des vrais. Mais vous voyez, il y a ce paradoxe de l'ici qui fait qu'il y a une dimension universelle dans l'identité juive qui leur vient de l'hérédité hébraïque. Et quand les juifs se rassemblent, ils redeviennent les hébreux. Et bien, c'est l'universel qui se rassemble. Alors, vous voyez, la dimension de définition que Rashi va mettre en évidence. Pourquoi Dieu compte les juifs, les hébreux. Regardez l'expression. Mitochi batan. Un peu, il y a un midrash qui parle comme ça. Un peu comme un asfan, comment on dit en français asfan, un collectionneur de pierres précieuses qui ne peut pas s'empêcher tous les jours d'aller compter ses précieuses. Il les a cherchées dans le sable du monde pendant des siècles et puis les a rassemblées, alors il les compte. Il y a une qualité de l'universel humain qui est représentée dans l'identification familiale de chaque membre d'Israël, alors qu'autour, il y a perte complète de l'identification originelle des familles humaines, sauf deux exemples que la Gemara, que nous allons voir, nous donner, les Perses et les Romains. Or, les Perses ont hérité de la filiation par Ishmaël, et c'est de notre temps qu'on voit que les Perses, qui s'appellent Iraniens, c'est Ishmaël. Vous avez remarqué ça? Il n'y a que de notre temps que ça se dévoile. Ce que le Gemara dit, c'est que l'islam anti-israélien, c'est d'abord l'Iran, beaucoup plus que l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ben, les grands d'Israël le savaient, que c'est la Perse qui réalise l'identité Ishmaël. Et puis Rome, l'identité Ésaü. Et ça, il n'y a que trois lignées de la famille d'Abraham qui s'identifient typologiquement à l'échelle de l'anthropos originel. C'est Israël, et puis l'islam par la Perse, et la chrétienté par Rome. On peut voir ça dans la Gemara que nous avons lu. Hein. Et alors on continue à chercher. Mais Torchi Batan et Fana, monnaie au temple de Charles. Pourquoi Dieu se préoccupe de savoir combien sont-ils? Y a-t-il un nombre suffisant? Est-ce qu'ils sont capables de faire société et communauté? Il se préoccupe de ces gens-là parce qu'il s'agit de l'élection à l'échelle universelle. C'est à ce peuple que Dieu s'est adressé en direct et de s'adresser à l'humanité à travers ce peuple en différé. Mais en direct, c'est à ce peuple qu'il s'adresse. Et même si les juifs ne veulent pas le savoir, tous les hommes le savent, grâce aux chrétiens et aux musulmans, que ce prophète hébreu, que le Dieu unique, qui est le Dieu un, s'est adressé à travers, pour s'adresser à l'humanité. Est-ce que c'est clair, ceci? Il y a un consensus universel, qui d'ailleurs irrite les juifs, parce que ça les oblige à se regarder dans la glace. Et alors, la réaction des juifs déjudaïsés, c'est de dire, mais ils savent bien que c'est pas possible, laissez-vous être comme les autres. Mais ils savent bien que c'est pas possible. Bien, est-ce que c'est clair? Et c'est bien parce qu'ils savent que c'est pas possible qu'ils le réclament avec grossièreté. Ils lisent quelque chose qu'il y a dans le Talmud. Ils le lisent pas, comme tous les autres à la fois. Mais ils oublient à la fois parce qu'ils n'ont pas la foi. Effectivement, quand toute la nation ensemble, c'est ça Israël, mais qu'est-ce qu'on a commune parmi les nations, il y a une chose qu'Israël peut enseigner aux Juifs, Israël d'Israélien, la société israélienne, c'est que les Juifs croient, mais c'est une utopie, qu'ils sont Juifs parce qu'ils le désirent, qu'ils sont Juifs parce qu'ils le veulent bien. C'est pas vrai, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors ça au moins, pour l'Israélien, c'est réglé. On ne peut pas faire autrement quand on est Israélien. Voilà tout ici. Donc, pour les Juifs, c'est une identité inéchappable. Simplement parce qu'il y a des gens. À la guerre des Six Jours, les Israéliens ont compris cela. Les Israéliens n'avaient plus déshumanisés. Ils ont compris que leur identité juive était inéchappable. Il y a une expression de je ne sais plus quel homme politique contemporain, un juif d'ailleurs d'origine, Stora, ça me dit quelque chose. Je ne sais pas, il s'est vissé il y a 10 ans, il y a 15 ans dans l'Express. Il disait que la guerre des Six Jours dévoilée, qu'Israël était le juif des nations. C'est-à-dire, en tant qu'État, Israël est le juif des nations. Les Israéliens ont découvert ça. C'est très difficile à avaler, mais c'est une situation claire. On est israélien comme un cheval est cheval. Comme une expression aristotélicienne. C'est ce qu'il appelle ça, j'ai oublié, la vertu. Il y a un nom spécial en grec, mais ça m'échappe. Bon, la vertu naturelle. Une charnière est une charnière. C'est sa vertu d'être. Un homme est un homme. Et un juif est un juif. Alors que ce n'est que depuis l'émancipation que les Juifs se sont inventés ce fantasme qu'ils sont juifs parce qu'ils le veulent bien. On étudiera ça pour le prochain moment, d'ailleurs, appelez-moi ça. Quand Dieu a renversé la montagne sur Israël, le Maharal explique, « Ah, vous croyez que vous allez accepter parce que vous avez décidé d'accepter, que si vous acceptez pas, vous acceptez pas. Maintenant que vous avez décidé d'accepter, bloqué. » On verra ça plus en détail. On impose qu'à celui qui est prêt, mais dès qu'il est prêt, le mariage. Et on n'a rien que des fiancés. Mais une fois qu'ils sont mariés, on verra tout ça à propos de ce mot. Dans l'enseignement du Maharal qui est très très précis d'après la référence. Eh bien, on continue Rachid. Et chez l'Absolu Mitzrayim, Ménal, quand ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Ou chez Nafou Baegel, après la catastrophe du Moudor, il les a comptés. L'Idar Minan Antarim, pour savoir combien il en restait, si ça peut faire un Israël cohérent. Je parle trop près du micro, on s'arrête. Ou chez Baal et Ashrof Srinato Alehem Ménal, et lorsqu'il a décidé de faire résider sa présence dans le Ohel Moed, dans le Mikdash, Mishkan, c'est-à-dire dans le tabernacle qui peut fuir le temple de Jérusalem, il les a comptés pour savoir si la société communautaire d'Israël est suffisamment présente pour que la présence de Dieu, la Shrina, réside en eux. Be'echad Benissam, Kana Mishkan, le premier de Nissan. Le tabernacle a été dressé, ou le rabbi Yamana, le premier de Ya, il les a comptés le deuxième mois de la deuxième année. Eh bien, je voudrais vous introduire à la lecture de la Gemara sur cette question-là. Et s'il passe un permis, c'est pas permis. Alors, je reprends l'expression Mispar Shemot. Est-ce que vous entendez la collision de concepts, le nombre des nombres? Le nombre et le nom, c'est deux notions opposées. Dans les registres de lettres, l'éventail des registres de lettres, si vous faites la synthèse des sciences, ça commence par les sciences de la quantité. la science de la quantité la plus rigoureuse, c'est les mathématiques. Ensuite, la plus proche de la mathématique pure, c'est l'astronomie. Et ensuite, la physique. Et ensuite, biologie, tout ce que vous voulez. Et puis, on passe au niveau des sciences de la qualité, les sciences de la personne, de la psychologie, jusqu'aux sciences de la liberté et de l'emploi de la liberté à Torah. Vous voyez ce registre de l'être, de la quantité à la qualité. Et le nombre, c'est la quantité, le nom désigne la qualité. Alors le nombre des noms, oui, c'est caractéristique de ce dénombrement pour Israël. Nous naissons à l'indice numérique, à l'individu. Et puis il faut acquérir le nom de cet individu. Il y a un verset qu'on lit dans les prières qui accompagnent la mort. Tov shem mishemen tov veyom amavet veyom yivalad. Il vaut mieux un nom qu'une bonne nuit et le jour de la mort que le jour de la naissance. C'est très paradoxal, c'est les proverbes de Salomon. Vous connaissez le verset? Tov shem mishemen tov veyom amavet veyom yivalad. Shemen tov, c'est l'huile de l'onction. C'est la renommée. Vous savez, quand quelqu'un est important, on dit que c'est une renommée. Non, c'est étymologie. Et il vaut mieux un nom qu'un titre. C'est ça que ça veut dire. Et c'est au jour de la mort qu'on sait si le nom a été confirmé. Au jour de la naissance, on a devant soi un programme, tu seras un tel. Mais qu'au jour de la mort, qu'on sait s'il a été ou pas. Il faut acquérir le nom à partir de la formule numérique. Tel numéro de carte d'identité. Ça, c'est le nombre. Quand on nomme quelqu'un, on est destiné à être. Si je nomme un enfant Abraham, ça veut dire que tu seras Abraham. Et s'il n'est pas capable, il va être jugé, monsieur Abraham, as-tu été Abraham? Et c'est très très dangereux de nommer les gens n'importe comment. C'est pourquoi vous savez qu'il y a des gosses qui ne supportent pas leur nom. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, je me rappelle moi. Mon nom c'est Judas. Imaginez-moi, Yehuda. Imaginez-moi Judas à l'école française. Alors on m'a appelé Léon en espagnol. Parce que Judas, le lion. C'est vrai, bon, c'est un exemple folklorique, mais il y a des noms difficiles à porter. Vous pouvez chercher dans tout le Talmud, aucun rabbin qui s'appelle Moïse ou Aaron, Moshe ou Aaron, qui a la prétention de s'appeler Moïse. Il faut le faire. Bon, on a des tas de Moïse, en français il s'appelle Maurice, ou Aaron. Et alors, la tradition dit que lorsque le père nomme son fils, sans le savoir, il prophétise. Il ne le sait pas, mais il prophétise. Tu seras un tel. Alors, je dis ça en tout cas pour ceux qui doivent se nommer à l'âge adulte, parce qu'ils n'ont pas de nom juif, parce qu'ils sont déconvertis. Il faut bien faire très attention en choisissant le nom qu'on se donne. C'est pas la loterie. Bon, comment est-ce que je veux dire ? Pas arbitraire. Et alors, voilà, vous voyez, Mispar Shemot. C'est le cas particulier que je voulais définir concernant le problème du dénombrement. Alors, le péril du dénombrement, c'est précisément provoquer le jugement. On se compte, c'est interpeller les individus, fais-tu partie de l'identité Israël vraiment ? On est jugé au niveau Israël. Et si on n'est pas encore vraiment, c'est dangereux. C'est pourquoi le dénombrement se faisait par une offrande d'expiation, de rachat de la personne, de chacun. Est-ce que l'idée est claire? Dénombrer une société, ça veut dire qui fait partie comme membre authentique de cette société. Combien y a-t-il de membres en Israël? Que les membres qui sont vraiment Israël. Mais tant qu'on n'a pas fini l'histoire de sa vie, et bien on n'est pas encore vraiment ce que l'on devrait être. On ne le sait pas. C'est pourquoi la Mishnah dit qu'on Israël, je l'aimerais déclarer. Une partie de moi est déjà Israël, mais il faut un jugement pour savoir si je suis Israël. Mais pas le dénombrement est dangereux, c'est un jugement. Et alors on dénombre les shkalim, le chatzi shekel, qui représentent l'offrande d'expiation du fait d'avoir un dénombre. Je voudrais vous lire ce que nous dit le Rami en introduisant le Rami Drash que cite le Gli Lezahav. Vous remarquerez, comme je vous fais remarquer le Gli Lezahav, que le dernier verset, la parasha de Berukhotai, les derniers mots, c'est Be'ar Sinai. Et voici les lois qui ont été révélées à Israël sur la montagne du Sinaï. Alors, il y a un Midrash, il dit ceci. Et il y a un Midrash de Be'ar Sinai. Voici les commandements qui ont été révélés sur la montagne du Sinaï. Dernier verset de la parasha de Berukhotai. Be'samachila, Be'idaber, Be'midbar Sinai. Et ce qui suit, ce qui est joint, c'est le dénombrement dans le désert du Sinaï. Le Midrash Yalkut, le Midrash enseigne, Bécharach qui voulait Israël la Torah, au moment où Israël a reçu la Torah, les nations du monde ont jalousé Israël. Amrou, ils ont dit, Maraouele, les Karéviotè, les Kolamout. Qu'est-ce qu'ont vu cela, Israël, elle, de s'approcher de Dieu plus que les autres nations? Amalaïm Akazbor, Dieu leur a répondu, et Viou s'est fait Yochasin Shelachim, amenez vos livres de généalogie, Keshem Shemevim Banaï, de la même manière que mes enfants amènent leurs livres de généalogie. Ils connaissent leur filiation. Affiliation, vous verrez que c'est le contenu de la première paracha de Matsila, jusque aux ancêtres hébreux, et lesquels ont gardé l'affiliation au premier homme. C'est-à-dire, il y a là une identification humaine, familiale de la famille humaine, qui est le cas particulier d'Israël. Chanemar va être tiré d'où ils se sont affiliés par leur famille. Bezéou Shekata et la mitoise de sa mère, c'est votre. Chez nous, Akulito, la Torah et la Bishbi, la Yochassin. Ils n'ont mérité de recevoir la Torah que par le mérite de leur fidélité d'identité familiale. C'est très important. Ce sont les Hébreux restés Hébreux qu'on retrouve au Sinaï. Alors, on va voir comment la Gemara, elle, bon, il y a ensuite tout un développement. Comment la Gemara va. Est-ce que quelqu'un, par hasard, aurait une loupe? Bien, alors vous allez voir, on commence. Hein. On est à la quatrième ligne, à partir de la fin de la première page. On a la quatrième ligne à partir de la fin. Les ratis de la voix, vous y êtes? Hein? C'est Darash, Rabbi Hanina, Bar Papa, Veitema Rabbi Shamlai, Rabbi Hanina, fils de Papa, c'est une expression authentique. Il y avait des rabbins qui s'appelaient Papa. Vintema. Et si tu veux, je dirais qu'il s'agit du fils de Rabbi Shamlai. Les ratis de la roue, à l'avenir, mais vie à Kadosh Baruch Hu, Sefer Torah, Dieu, le Saint béni soit-il, prendra un Sefer Torah, ou Manicho, Befeko, le prendra dans son sein, Veomer, et il dira, les Misha Asakba, qui s'est occupé de cette Torah, Yabo Vitol Srao, qu'il vienne et qu'il reçoive son salaire. Alors là, imaginez la scène. À la fin des temps, au jugement dernier, proclamation de Dieu, qui a un Sefer Torah sur l'épaule, imaginez, hein, et puis qui dit, voilà ma Torah, qui s'est occupé de cette Torah, qui vient de recevoir son salaire. Alors il y a panique chez les goyim. Miyad mitkapsim ubaim ol de korabim be'al ubia. Alors tout de suite viennent les idolâtres en mélange, arboubia. Shenema, kol goyim nikbetsu yachad. Toutes les nations se sont rassemblées ensemble, l'ONU, le machin, comme disait De Gaulle. Hein? Vous voyez, à l'heure du jugement dernier, un rassemblement des nations. C'est un balagan fini. Comme ça commence, ça finit. Parce que dès que le... Je vous le dis en hébreu. Que chez Adam Arishon, balagan, il trie la balagan. Quand les nations se rassemblent, ils se rassemblent en confusionnisme absolu. Tu vois, ça me rappelle les matchs de football. Hein? Il y a, je ne sais pas moi, les Autrichiens contre les Français, mais c'est tous des Noirs. Enfin, l'essentiel. Qui est quoi? Et, ne serait-ce que je fais une échappée dans la politique contemporaine, dans les problèmes graves qui se posent au nom du peuple juif, le concept d'arabe israélien. Je ne sais pas si vous rendez compte. D'Arbacher. Bon, Kolagoïm, Nigvesu Yachab. Amarim, Akhazor. Alors Dieu leur dit Altikansu, les pharaïs, les arbouviers, ne vous rassemblez pas devant moi en pagaille, et la Tikanes, Kolumavouma, mais que chaque nation entre et se présente. Chaque nation est sofréa, Koluma est sofréa, chaque nation est ses scribes, les scribes de l'état civil. Shenema, Vaya Sefou Léoubim, et tous les peuples se sont rassemblés. Or, Léoum, c'est les peuples, le peuple par filiation familiale. Le mot le plus proche, et je reviens à Léoum, c'est la Ouma, les descendants de la même mère. Vous avez Ram, c'est les gens qui sont ensemble. Him, Léon, c'est les descendants de la même mère. Ben, Léon, et la Malchoute. Et chaque fois qu'il y a Léon, dans le sens de la filiation familiale, c'est les royaumes. Chez Neymar, ou Omni Léon et Mats, Ika, Boubia, Kamer, y aurait-il mélange devant Dieu qui a créé les lignées humaines et là, qui a fait des larves, les albégouillons, des lichmérous, non et d'amalérous, ni remessa les fanats, c'est en araméen, je vous traduis. Lorsque les peuples se sont rendus compte que seule une nation qui est capable de se définir comme nation, dans les filiations des 70 nations de base, qui se sont perdues dans le grand mélange de la diaspora humaine, alors, apparu d'abord, est entré devant lui, Nirnes Alephana, Malchut Romi Techila, la nation de Rome d'abord. Maïtama, pour quelle raison? Mishum de Khashiva, parce qu'elle est la plus importante. Ou Minalan de Khashima. Et nous savons-nous qu'elle est importante? On se réfère à la vision de Daniel, qui a vu les quatre bêtes qui représentent les quatre grandes civilisations. La dernière est en Rome. Et à ce propos, de la bête qui représente Rome, il y a le verset, Vatochal Korara, elle a dévoré toute la terre. Je continue. Une minute que je me reprenne là. J'ai lu par cœur. Vatochal Korara. Anarabi Yohanan, Zoromi, cette quatrième bête du rêve de Daniel, c'est Rome. Hayabet, Shetiva, Yetzebechon Aolam, elle a obligé que sa nature s'impose à tout le monde l'impérialisme romain, vous savez, qu'est-ce que ça a déclenché dans l'histoire de l'humanité. Toutes les nations modernes se rattachent au droit romain. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Le parlement de tous les pays africains, asiatiques, etc., singe le Sénat romain à l'origine. C'est effectivement la civilisation romaine qui a dévoré toute la terre à travers, bien entendu, les colonies de l'impérialisme romain. Ça a pris des siècles. Quand je vois, par exemple, qui va chasser l'aigle au Cameroun, quand je suis au Cameroun et que j'assiste à l'Assemblée nationale camerounaise, alors vous voyez tous ces Noirs qui représentent plusieurs centaines de tribus différentes d'ailleurs, qui chantent en français leur chant national. C'est très impressionnant parce qu'ils chantent bien, en plus. C'est très impressionnant de se dire jusqu'où l'impérialisme est arrivé à s'installer. Bien. Oui, c'est un exemple pas sans même. Chez les anciennes colonies anglaises, c'est la même chose. Chez les anciennes colonies portugaises, c'est l'impérialisme romain qui s'est installé sur toute la terre. Je continue. Là, je vais passer pour arriver à la deuxième peuplade, parce qu'il y a des parenthèses. Continuez. Voilà. Alors, Dieu dit aux Romains. Ils sont convoqués parce qu'ils ont gardé leur filiation de malchut, familiale, leur identité. Et ça se rattache à l'identité d'Ésaü. C'est clair. Vous avez suivi tout ça. Alors Dieu leur demande, Amarlaïm, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est ça? Bemaya Saktem, de quoi vous êtes occupé? Au moment où les fanas, ils disent devant lui, Ribono Shel Olam, Arbe Shvakim Teknim, nous avons fait de grands marchés, les multinationales. Arbe Melchatzaot, Asim. Nous avons fait de grandes bains, des piscines. Arbekese Bezaha Verbin. Nous avons rassemblé beaucoup d'argent et d'or, les banques. Bechoulam, le racine de la Bishbil Israël. Et tout ça, nous l'avons fait que pour Israël. Pour qu'Israël apprenne à faire des marchés, des saunas et des banques. Puisque ce n'est pas Israël qui a inventé tout ça, c'est les Romains. Ah, c'est tout un sujet important. Par exemple, l'art juif, il n'y a pas d'art juif. Il y a un art judéo quelque chose. Maintenant, il y a de nouveau un art israélien qui est un art hébraïque. Mais l'art juif, regardez par exemple les Hanoukiot. Les Hanoukiot, ce n'est pas de l'art juif, c'est l'art du pays en juillet. Vous voyez, une Hanoukia marocaine, elle est marocaine. Une Hanoukia alsacienne, elle est alsacienne. Une Hanoukia polonaise, elle est polonaise. Le chant, la musique. L'art juif, ça n'existe pas. L'art juif, c'est une cachérisation de l'art goy, avec les fondeurs d'orthographe. Parce que s'il n'y a pas des fondeurs d'orthographe, ça ne fait pas juif. Vous avez remarqué ça, hein? Les plus beaux chants chassides, on les a appelés des tziganes. Et ensuite, le chant chasside, il s'est autonomisé, si j'ose dire. Mais ça avait des tziganes. Etc., etc. Les plus beaux chants sfarades, c'est la musique andalouse. Et la musique andalouse, c'est une musique de l'Inde transportée par les Arabes jusqu'en Espagne. Je ne sais pas si vous savez ça. Bon, eh bien, apprenez. Le makam, vous savez ce que c'est le makam? C'est une très belle musique, d'ailleurs, c'est ma musique familiale. Eh bien, c'est une musique goy, mais cachérisée. Quand on ouvre le poste en Afrique du Nord, on sait tout de suite si c'est un arabe ou un juif qui chante. Tout de suite, dans la première note. C'est la même mélodie, mais quand c'est chanté par un juif, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous savez ça. Eh bien, apprenez. Et alors, c'est de la musique arabe. Les Algériens appelaient ça la musique indigène, parce que c'était les autochtones. Eux, c'était les colons, les pieds noirs. Et les Arabes, c'est les indigènes. C'est un peu de ça. Et alors, c'était le départ des indigènes. Les Juifs étaient en Afrique du Nord avant les Arabes. Vous savez pas ça? C'est bien pour nous. Alors, vous dites, alors voilà, l'interpellation au jugement dernier, Dieu a demandé aux nations qu'est-ce que vous avez fait? Et bien, ils vont énumérer leur prouesse de civilisation. Et alors, en disant, ben voilà, on a servi la Torah, parce qu'il fallait bien que les Juifs aient des marchés, aient des bains, aient des banques. Hein. Alors Dieu leur répond, racontez pas l'histoire, c'est pour vous l'avez fait. Puis ensuite, les Perses viennent, et les Perses vont raconter qu'est-ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas le temps de le dire, mais vous lirez. Et alors, dis non, même les Perses, ce que vous avez fait, c'est pour vous. Et puis, ils racontent des choses d'un autre. On a fait les ponts, on a fait le... Alors, les goyim sont coincés. Ils disent quoi? Alors, la Torah, c'était sérieux. On ne savait pas. Alors, il dit, allez, on efface tout, on recommence. Et Dieu répond, on ne recommence pas, c'était sérieux. Mais je vais vous donner une petite mitzvah. Si vous la réalisez, c'est bien. Sinon, après je dirai la suite que j'ai fait à ce midrash, et qu'on va s'arrêter là rapidement, passer l'ordre de l'arbitre, il va la jouer dans la soukha, le club méditerranéen. Si vous, ça ressemble. Alors si vous faites la soukha, c'est très bien. Ça équivaut à toute la Torah. Qu'est-ce que Dieu va faire? Au moment où on va dans la soukha, il va y avoir une canicule terrible. Et d'après les lois de la soukha, s'il fait trop chaud, on n'a pas fait la soukha, on va dans la maison. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait les goyim? Ils ont claqué la porte de la soukha en disant, qu'est-ce que c'est cette soukha qu'on ne peut pas faire? C'est très profond ce mélange. Alors Dieu ne les a punis pas parce qu'ils n'ont pas fait la soukha, puisqu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ont claqué la porte. Et la réaction de la théologie des goyim, c'est de dire, la Torah, on ne peut pas la pratiquer. On claque la porte. Quand un juif ne peut pas faire la soukha parce qu'il fait trop chaud, il est malheureux. Alors quand un goy ne peut pas faire la Torah parce que c'est trop difficile, il est heureux. Voilà la différence. Et c'est ça qui s'est passé. Vous avez claqué la porte de la soukha. C'est ce que Dieu dira au goyim au jugement d'être. Alors je vais dire la suite du midrash très rapidement. Alors les anges ont dit, on ne peut pas faire le jugement d'être. On ne peut juger que les juifs. Il n'y a que les juifs qui ont accepté la Torah. Alors Dieu a répondu, on va juger les juifs. Et il y avait les goyim. Et bien on va juger les goyim d'après leur juge. Et c'est très important. C'est là que je vous dis midrash. Les juifs ont la responsabilité de leur goyim. On jugera les goyim d'après leur juge. Par exemple, Dieu va demander au jugement dernier aux juifs allemands, est-ce que j'ai bien fait de créer l'Allemagne? C'est les juifs allemands qui doivent répondre. Et Dieu va demander aux juifs français, est-ce que j'ai bien fait de créer la France? C'est les juifs français qui vous répondent. Je préfère les juifs français et les juifs allemands. Parce que les juifs allemands, je les plains, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Bon, quoi qu'il en soit, on s'arrête là et on se retrouvera la semaine prochaine. Ah oui, j'ai oublié, lundi, nous aurons une conférence sur Brut, sur la Ligue de Brut. À 6h30. C'est affiché ou pas? Non, c'est affiché. Alors lundi, c'est pour préparer chaque mois. À 6h30. Ce lundi.